Vous écoutez, on lit pour vous.
Une cigarette, un verre d'alcool ou une poutine, un texte de Catherine Anfield, paru le 16 mars 2025, dans la presse. Les deux tiers des décès sont causés par des maladies chroniques au Canada et, on le sait, le mode de vie y est pour beaucoup. Tabac, malbouffe, usage nocif d'alcool, inactivité physique. Quel comportement est associé au plus grand nombre de décès? C'est encore aujourd'hui le tabagisme, responsable de 91 décès par tranche de 100 000 habitants, selon les données de 2021 de l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé. En deuxième position, les risques alimentaires. 70 pour 100 000. Et en troisième, l'alcool, 27 pour 100 000. Qu'est-ce qui réduit le plus l'espérance de vie? Une cigarette, un verre d'alcool ou une poutine? Une cigarette, ça peut tout de suite mettre le feu dans la cabane, illustre le chercheur Jean-Pierre Després. Mais une poutine, un verre de vin ou une bière ne mettront pas le feu dans la cabane. L'impact dépend beaucoup de votre mode de vie. Cigarette. La moyenne de 20 minutes par cigarette est tirée d'une étude récente publiée dans la revue Addiction. Les chercheurs se sont penchés sur deux cohortes. L'une d'hommes, celle des médecins britanniques suivis pendant 50 ans, l'une de femmes, suivie pendant environ 12 ans. Ils ont calculé qu'en moyenne, les hommes qui n'ont pas arrêté de fumer ont perdu 10 ans de vie et les femmes 11 ans, ce qui équivalait à 20 minutes par cigarette. Est-ce à dire que chaque paquet de 25 cigarettes fait perdre très exactement 500 minutes de vie? Des fumeurs succombent à des maladies reliées au tabagisme dans la quarantaine, mais à l'autre bout du spectre, on trouve aussi quelques phénomènes qui atteignent des âges vénérables en ayant fumé toute leur vie. On parle de moyenne, explique le pneumologue François Maltais, professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval. Ce n'est pas tout le monde qui fume de la même façon, dit-il. D'autres habitudes de vie viennent ou non avec le tabac, comme la sédentarité. Il y a aussi notre bagage génétique. Des gènes semblent favoriser le développement de certaines maladies associées à la cigarette, comme l'emphysème. N'empêche, les fumeurs protégés contre l'emphysème peuvent se faire rattraper par une maladie cardiovasculaire, un cancer du poumon, de la gorge, de la vessie, énumère François Maltais, qui souligne que le fumeur de 95 ans demeure l'exception. Globalement, quand tu fumes, tu hypothèques ta santé, dit-il. Plus on fume de cigarettes par jour, plus le risque augmente, dit-il. Et il n'y a pas de seuil de sécurité. Des études dans les pays à plus faible revenu où des gens n'avaient pas les moyens de fumer plus de 2 ou 3 cigarettes par jour, on a pu démontrer qu'ils avaient aussi une pénalité par rapport à ceux qui n'avaient jamais fumé, explique le docteur Maltais. Et ceux qui ont arrêté, justement? Dans la cohorte des médecins britanniques, les hommes qui avaient arrêté de fumer avant 30 ans retrouvaient la même espérance de vie que ceux qui n'avaient pas fumé. Et ceux qui avaient écrasé leur dernière avant 40 ans perdaient seulement 1 an de vie en moyenne. Passé 40 ans, on garde une pénalité. Mais il y a toujours un avantage à arrêter de fumer, souligne le docteur Maltais. Alcool. Il ne fait aucun doute que la consommation sévère d'alcool retranche de nombreuses années de vie. Chez ceux qui sont hospitalisés en raison de leur alcoolisme, on parle de 25-30 ans de moins, selon une étude menée en Scandinavie. Mais qu'en est-il pour ceux, nombreux, qui boivent avec modération. En 2022, un comité d'experts canadiens a publié un rapport qui a bouleversé les perceptions au pays. Au-delà de 2 verres d'alcool par semaine, ont-ils statué, le risque de développer des cancers liés à l'alcool, sein, côlon, augmente déjà. Et au-delà de 7 verres par semaine, les problèmes cardiovasculaires aussi. L'alcool est associé aux maladies cardiovasculaires, aux cancers, aux maladies du foie, mais aussi à une autre catégorie de risques, les blessures et les accidents. Ces morts, qui touchent particulièrement les jeunes adultes, affectent beaucoup les calculs pour l'espérance de vie. En moyenne, selon Tim Stockwell, un verre d'alcool standard au Canada a le même impact sur l'espérance de vie qu'une cigarette. En faible quantité, l'alcool est moins risqué que la cigarette, mais plus on en prend, plus l'impact est similaire, selon le site internet noalcohol.ca, développé par l'Université de Victoria. Le professeur Tim Stockwell, qui a consacré sa carrière à la prévention des méfaits associés à l'alcool, fait partie du groupe d'experts ayant publié les nouveaux repères de 2022. 10 ans plus tôt, il avait participé à l'élaboration des repères précédents qui avaient mené aux recommandations canadiennes en matière de consommation d'alcool à faible risque, maximum 10 verres par semaine pour les femmes et 15 pour les hommes. Ces repères demeurent ceux en vigueur sur le site de Santé Canada. À cette époque, on calculait qu'à 2 verres par jour environ, votre risque de mourir d'un cancer était à peu près égal à votre risque d'être protégé d'une maladie cardiaque, explique Tim Stockwell. Mais nous réalisons maintenant 2 choses. La preuve d'un effet de l'alcool sur le cancer, à de faibles niveaux de consommation, est plus robuste. Et les preuves des effets protecteurs de l'alcool contre les maladies cardiaques sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Si les buveurs modérés ont une meilleure santé cardiaque que les abstinents, c'est peut-être parce que les gens qui cessent de boire sont en moins bonne santé à la base que ceux qui peuvent se permettre de continuer, illustre-t-il. Chercheuse au Centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal, Anne-Julie Tessier ne conseillerait pas à quelqu'un qui ne boit pas d'intégrer l'alcool à son alimentation. Mais pour les gens en santé qui en boivent déjà et de façon modérée, il n'y a pas nécessairement de problème, dit-elle. Consommé en petite quantité, l'alcool, en particulier le vin rouge, est associé à un vieillissement en santé, souligne la diététiste nutritionniste. Il y a un débat, convient le chercheur Tim Stockwell, mais le consensus tend à dire que s'il y a des avantages, ils sont infimes. L'alcool, rappelle-t-il, n'est pas un médicament testé et éprouvé pour votre santé. A-t-il lui-même cessé de boire? Non. Mais il boit moins souvent, en privilégiant les occasions où il apprécie réellement son verre. Quand ça devient habituel, ce n'est plus aussi plaisant. Vous écoutez Une cigarette, un verre d'alcool ou une poutine, un texte de Catherine Anfield, paru le 16 mars 2025 dans La Presse. Mode de vie. Alors que la cigarette est une insulte physiologique immédiate, la situation est plus nuancée pour l'alcool, estime Jean-Pierre Després, professeur du département de kinésiologie de l'Université Laval, qui a étudié toute sa carrière la prévention cardiovasculaire. Je ne parle pas des gens qui prennent une brosse le vendredi soir. Ça, c'est une autre grosse insulte physiologique, prévient le chercheur. Mais en modération, où est le seuil? Ça revient à votre mode de vie. Le cocktail dangereux? Alcool, obésité viscérale et inactivité physique, dit-il. L'alcool fait mauvais ménage avec une maladie étroitement liée à l'obésité abdominale, la maladie du foie gras ou maladie hépatique stéatosique, caractérisée par une accumulation de graisse dans le foie. Chez les gens qui en sont atteints, même une consommation d'alcool légère est associée à une dégradation de la condition du foie. Quand vous allez dans les arénas, dit Jean-Pierre Després, la fin de semaine, et que vous voyez des messieurs de 45 ans avec un bedon dur et une bière dans les mains, c'est une insulte pour leur foie. Les gens très actifs physiquement, pour leur part, amenuisent le risque associé à une consommation d'alcool, indique le professeur. Il n'est pas besoin d'être svelte pour avoir un foie maigre. C'est le tour de taille qui compte, pas l'indice de masse corporelle, insiste Jean-Pierre Després, qui rappelle que la graisse sous-cutanée est beaucoup moins dangereuse que la graisse viscérale, celle stockée autour des organes, dans l'abdomen. Il donne en exemple une étude qu'il a réalisée auprès de cyclistes amateurs, pas particulièrement maigrichons, il faisait lui-même partie des sujets. Et leur foie était maigre, dit-il, raide maigre. Jean-Pierre Després conseille de manger mieux, moins d'aliments transformés et de sucre ajouté, de garder une bonne condition cardiovasculaire. Pas besoin de se mettre à faire du jogging, aller simplement marcher tous les jours, et de surveiller son tour de taille, et non le poids sur la balance. Je ne vous dis pas que vous allez complètement annuler l'éventuel risque lié à votre consommation modérée et sociale d'alcool, mais vous allez le minimiser considérablement. Poutine. La poutine contient beaucoup de gras, de sel et aucun légume vert, soit, mais consommée de temps en temps, elle peut très bien faire partie d'une saine alimentation, selon Anne-Julie Tessier, docteur en nutrition et professeure adjointe au département de nutrition de l'Université de Montréal. Ce sont les habitudes alimentaires globales qui comptent, dit-elle. L'alimentation, c'est complexe, parce qu'on peut avoir une réponse très variée. Mais on sait que la diète a un impact très important sur les maladies chroniques et sur l'espérance de vie. Des données montrent qu'en améliorant la qualité globale de son alimentation, on peut aller chercher jusqu'à 10 ans, indique la chercheuse. Selon une étude publiée l'an dernier et menée dans 7 pays, c'est en augmentant sa consommation de légumineuses, de grains entiers et de noix, et en diminuant sa consommation de viande transformée, qu'on peut faire le gain le plus significatif. Les Américains, par exemple, pourraient gagner environ 1 an et demi en espérance de vie en mangeant davantage de grains entiers et de légumineuses, et 1 an en réduisant les boissons sucrées. Encore là, l'impact d'une poutine sur l'organisme n'est pas universel. Les gens ne métabolisent pas tous les aliments de la même manière, souligne Anne-Julie Tessier. Ça dépend du bagage génétique, de l'âge, de l'hygiène de vie. Une personne peut avoir une élévation de son glucose sanguin après avoir consommé un certain repas, alors qu'une autre personne, pas du tout, illustre-t-elle. Dans les années 1990, le professeur Jean-Pierre Després et son équipe avaient prélevé des échantillons de sang chez des personnes qui venaient de manger un petit déjeuner bien gras. Chez ceux qui avaient de l'obésité viscérale, un collet crémeux épais se développait dans l'éprouvette, se souvient-il. À l'opposé, chez ceux qui mangent bien, qui bougent et qui ont un petit tour de taille, l'insulte sera minime, résume-t-il. La bonne nouvelle, c'est que la graisse viscérale est la plus dangereuse, mais c'est aussi la plus facile à faire fondre, souligne Jean-Pierre Després, qui rêve d'une médecine préventive personnalisée au Québec. C'était une cigarette, un verre d'alcool ou une poutine, un texte de Catherine Anfield, paru le 16 mars 2025 dans la presse.
Vers un monde sans vérité, un texte de Boukhard Diouf, paru le 22 mars 2025 dans la presse. J'ai été élevé par une maman qui répétait souvent « La vérité est comme du piment. Elle pique les yeux, mais ne les crève pas. Et c'est en se frottant les yeux qu'on voit parfois plus clairement. » La dernière élection américaine qui a ramené Donald Trump au pouvoir nous a démontré que les médias sociaux contribuent grandement à brouiller la frontière qui sépare la vérité du mensonge. Pourtant, apprendre à différencier le vrai du faux est indispensable à la survie de la démocratie et de l'état de droit. Oui, la vérité peut être très relative. Il y a d'ailleurs une perle de sagesse qui dit qu'il y a toujours trois versions à une histoire. La mienne, la tienne et la vérité. On peut ajouter à cette formule que la vérité est souvent dans les nuances de gris qui séparent les deux versions. De ce fait, ceux qui se vantent de posséder la certitude absolue sont souvent aussi critiquables que ceux qui excellent dans l'art de dissimuler les faits. Quand on travaille constamment à cacher et travestir la vérité, comme le fait le président américain, on n'aide pas ceux qui la cherchent. Or, chercher la vérité et s'entendre sur les faits est une part importante de ce qui définit l'humanité. Apprendre à différencier la vérité du mensonge est une part importante de la psychologie des animaux hautement sociaux que nous sommes. Dans son hypothèse dite du cerveau social, l'anthropologue britannique Robin Dunbar soutient que le développement de l'intelligence humaine ne s'explique pas seulement par le contexte environnemental. Il est aussi, dit-il, un outil ou un moyen pour survivre, trouver sa place et se reproduire à l'intérieur des groupes sociaux complexes qui forment l'humanité. Cette vie en grande communauté est associée à l'altruisme, la tromperie et la formation de coalitions. Dans ce contexte, élaborer des mensonges et mobiliser son cerveau pour ne pas se faire berner ont été des façons d'augmenter nos capacités intellectuelles. Le mensonge est si ancré dans notre espèce qu'il est un sujet d'intérêt pour les biologistes, les philosophes, les sociologues, les anthropologues, les politologues et les militaires. En temps de guerre, disait Churchill, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un rempart de mensonges. Bien mentir est une activité très exigeante pour le cerveau. Des études neurologiques ont démontré que le mensonge nécessite la participation des aires du cerveau impliquées dans le raisonnement de haut niveau. Pour bien mentir, il faut d'abord décider consciemment de cacher la vérité, fabriquer très rapidement un fait alternatif pour faire croire cette mystification à ses interlocuteurs. Il faut aussi mémoriser cette histoire trompeuse pour ne pas éveiller la suspicion ou finir par se contredire. Devant ceux qu'on cherche à tromper, il faut également travailler son non-verbal pour éviter de donner des signes de malhonnêteté. En plus, une fois le gros mensonge au large, il reste à prier pour que la vérité ne sorte jamais au grand jour. Ce qui faisait dire à ma mère ces sages paroles. On est maître de son mensonge avant de le prononcer, mais on peut en devenir l'esclave une fois qu'il a quitté notre bouche. Le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits. Quand l'autre découvre le pot aux roses, les fleurs se fanent et les relations se dessèchent. Depuis longtemps, la quête du pouvoir politique est pour beaucoup de gens un chemin où des architectes du mensonge travaillent à élaborer des plans de mystification pour les politiciens. Aujourd'hui, avec les mouvements complotistes, les médias sociaux et leurs chambres d'écho, les imbécilités les plus inusitées trouvent des gens pour y croire et les relayer. Avec tous les outils technologiques de tromperie qui envahissent la toile, faire tomber la muraille qui sépare le mensonge de la vérité semble faire partie de l'ultime projet du capitalisme numérique. Aussi, lorsque l'intelligence artificielle atteindra sa vitesse de croisière, distinguer le vrai du faux deviendra une besogne très ardue. En attendant cet avenir incertain, le grand gourou de l'idéologie MAGA nous démontre tous les jours que mentir pour arriver à ses fins peut aussi être un mode de vie. Pour lui, loin d'être énergivore, le mensonge semble physiologiquement aussi automatique que la respiration. C'est pour cette raison que je trouve l'idée de tenir un décompte de ces mensonges contre-productif. Si ces gens qui surveillent ce qui sort de sa bouche veulent se simplifier la tâche, traquer les rares vérités dans le discours de M. Trump est bien moins harassant comme activité. Mais ce qui est encore plus troublant que son culte de la fausseté, c'est de voir tous les hommes qui applaudissent ses mensonges pour ne pas perdre les privilèges du pouvoir. Tous ces élus responsables qui se présentent comme des gens religieux avec de belles valeurs familiales sont prêts à cautionner les mensonges de M. Trump pour ce que la lumière du pouvoir leur apporte. Ils applaudissent son univers fantasmé pendant que le président dynamite les fondations des États-Unis d'Amérique. Serrer la main du gourou MAGA, c'est aussi adhérer à ses grands mensonges et jurer de ne jamais critiquer ses méthodes. En cause, il dispose d'une armée de trolls et de criminels pour intimider les dissidents et leurs familles. Lors de la célébration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela en 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud, Barack Obama, en parlant du mépris que certains politiciens ont pour la vérité, avait dit ceci. Vous devez croire aux faits, car sans faits, il n'y a aucune base pour la coopération. Si je dis que ceci est un podium et que vous dites que c'est un éléphant, il nous sera difficile de coopérer. Cette crédulité sans limite d'une frange de la population états-unienne, une faille qu'exploite merveilleusement le trumpisme, est causée par le manque de culture et la sous-éducation, deux mots qui ont été exacerbés dans ce pays par les inégalités économiques. En éducation, comme pour la vaccination, seule une grande couverture garantit une immunité nationale. L'éducation est la meilleure vaccination contre le virus de désinformation qui menace dramatiquement les États-Unis. D'ailleurs, le retour de la rougeole qui défraie la chronique se nourrit grandement de cette culture de l'ignorance qui sera le talon d'Achille des États-Unis dans leur rivalité avec la Chine. Alors que M. Trump cherche à détruire le déjà très défaillant système d'éducation américain, la Chine renforce le sien et valorise plus que jamais la connaissance et la culture. C'est son arme la plus redoutable dans leur affrontement à venir. C'était « Vers un monde sans vérité », un texte de Boukhar Diouf, paru le 22 mars 2025 dans La Presse.
Quels piétons sont les plus à risque au Québec? Un texte de Sarah Boumeda, paru le 27 février 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les décès des usagers de la route sont en baisse, sauf chez les piétons. Parmi eux, lesquels sont les plus vulnérables lors d'une collision avec un véhicule Où et quand les accidents se déroulent-ils le plus souvent au Québec? Une analyse des données de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, permet d'en savoir plus sur les collisions impliquant des piétons dans la province. Le nombre de piétons accidentés a connu une baisse considérable en 2020 avec l'avènement de la pandémie de COVID-19. Les chiffres augmentent continuellement depuis, sans toutefois atteindre les niveaux pré-pandémiques. Le nombre de piétons tués lors d'une collision a lui aussi connu une baisse au début de la pandémie, passant de 69 en 2019 à 53 en 2020, puis il a atteint un sommet en 2022, atteignant 82 victimes. En 2023, 63 piétons sont morts sur les routes québécoises. De 2019 à 2023, la région de Montréal a vu le plus haut taux annuel de piétons victimes par 100 000 habitants, 46,7, suivi par Laval, 30,3, et la Mauricie, 23,5. C'est une amélioration par rapport aux dernières données de la SAAQ, publiées en 2016. Le taux de victimes à Montréal pour la période de 2011 à 2015 était alors de 63,5. À Laval, encore une fois, en seconde place, ce taux se situait à 37,4. Outre Montréal, c'est la région de la capitale nationale qui a vu la plus forte baisse dans son taux de victimes entre les deux périodes, passant de 31,7 à 18,3. Près de la moitié, 47,6% des piétons décédés lors d'une collision au Québec étaient âgés de 65 ans ou plus en 2023. Ce groupe d'âge compte pourtant pour seulement environ 20% de la population québécoise, selon le recensement canadien de 2021. Une analyse des rapports du coroner impliquant le décès de piétons lors de collisions montre aussi que l'âge moyen des victimes est de 63 ans. Plus du quart, 26,8% des accidents impliquant des piétons se déroulent en fin d'après-midi, entre 15h et 18h, indique la SAAQ. C'est plus que n'importe quel autre moment de la journée. À eux seuls, les accidents se déroulant en après-midi, de midi à 18h, comptent pour 47% des collisions impliquant des piétons au Québec. C'était « Quels piétons sont les plus à risque au Québec? » un texte de Sarah Boumeda, paru le 27 février 2025 dans Le Devoir.